Réserve d'acceptation de votre dossier par le prêteur LCL. Plus d'infos sur lcl.fr.
En France, les crises sanitaires et économiques ont aggravé la précarité de millions de personnes. À la Fondation Caritas France, nous avons une conviction. La précarité n'est pas une fatalité. Nous soutenir, c'est s'engager pour une France plus fraternelle et proposer des solutions durables et innovantes pour les plus fragiles d'entre nous. Faites un don sur fondationcaritasfrance.org et bénéficiez d'une déduction fiscale. Fondation Caritas France, au plus près de ceux qui s'engagent.
France Inter,
première radio de France.
10h. Le flash Timur Öztürk, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Les premiers manifestants se rassemblent en ce moment à Marseille, journée de cortège pour la fête internationale des travailleurs. Plus de 265 rassemblements en France. À Paris, la principale manifestation doit s'élancer à 14h de la place de la République. Un an après la réforme des retraites, il y aura sans doute moins de monde dans la rue, mais la vague d'adhésion se poursuit dans les syndicats. Dans un contexte d'austérité budgétaire pour le public, de recul des droits des chômeurs et de salaires affaiblis par l'inflation, les organisations de salariés connaissent un certain regain, comme l'expliquent plusieurs syndicalistes à Maxime Debs.
Oui, tout à fait. Mais non, mais comme je vous l'ai dit, je suis un peu pris par le premier mai, là. Hein ?
S'il ne sait plus trop où donner de la tête, c'est que Jacques Borenstein, à l'Union départementale Force ouvrière à Paris, est un peu débordé. Depuis un an, les retraites, l'actualité sociale ne s'est pas vraiment calmée. D'autant qu'avec elle, il a fallu gérer l'afflux de nouveaux adhérents. Un bon point, entre guillemets, pour les syndicats, certes, mais le signe aussi que les préoccupations sont nombreuses cette année.
La guerre aux chômeurs déclarée, la sécurité sociale, dans cette ambiance un peu maussade, on a eu environ 9% de nouveaux adhérents sur le bilan 2023. Cette année, on est à peu près sur la même trajectoire. Des adhésions sur la tranche 30-40 ans qui ont envie de défendre ces droits qui sont remis en cause.
Même tendance, maison des syndicats à Malakoff, dans le sud de Paris. La CGT où Cédric Mastin voit lui aussi de nouvelles têtes arriver.
C'est pas au même niveau que lors des retraites. Mais voilà, avec tout ce que, au début de l'année, la loi immigration, et puis faut pas oublier aussi les salaires aussi, tout ce cocktail-là, ça devrait faire un bon 1er mai assez revendicatif.
Les motifs de colère qui ne manqueront pas dans les différents cortèges, agrémentés donc de nouveaux adhérents qui, pour certains, défileront pour la première fois aujourd'hui.
Un reportage Maxime Debs. On se souvient, pendant la réforme des retraites, de la forte mobilisation des éboueurs, des poubelles entassées dans les rues de Paris, notamment en ce 1er mai. La CGT des éboueurs parisiens annonce avoir déposé un préavis de grève pour toute la période des Jeux Olympiques et Paralympiques. Les éboueurs réclament notamment une prime exceptionnelle de 1 900 € pour les agents sollicités lors des JO. Les salaires doivent progresser dans notre pays, oui, déclare Xavier Bertrand, président de la région des Hauts-de-France. Mais pendant les vacances scolaires et les grands événements nationaux, le droit de grève doit être restreint, estime le cadre du parti Les Républicains. Aujourd'hui, le Rassemblement National profite du 1er mai pour faire campagne, date depuis longtemps récupérée par le parti lepéniste pour rendre hommage à Jeanne d'Arc. Jordan Bardella, président du RN, tête de liste pour les européennes, tient un meeting à Perpignan, mairie RN tenue par Louis Alliot. Un homme tellement immense, doté d'une pensée tellement intelligente, l'éditrice et ancienne ministre de la Culture Françoise Nyssen a rendu hommage ce matin à son ami Paul Auster sur France Inter. L'écrivain new-yorkais est mort à l'âge de 77 ans d'un cancer du poumon. Auteur d'une trentaine de livres, il a été traduit dans plus de 40 langues et a connu un succès particulier en France. L'auteur de Moon Palace, de L'invention de la solitude ou encore de La Cité de Verre avait vécu quelques années à Paris dans les années 70 et parlait français. Malgré sa maladie, il a achevé un dernier livre, Baumgartner, publié en mars. New York, cette ville tant racontée par Paul Auster, où la police est intervenue hier soir casquée en tenue anti-émeute à l'université Columbia pour expulser les manifestants pro-palestiniens qui occupaient le campus. La présidente de l'université réclame une présence policière jusqu'au 17 mai à Columbia, épicentre de la mobilisation étudiante pour Gaza.
Franceinter.fr présente
Le code a changé.
Xavier Delaporte.
Aujourd'hui, la plupart de notre vie administrative se passe en ligne. Nos impôts, nos relations avec la CAF, tout ça se fait sur Internet.
Le code.
Qui a décidé cela? Avec quelle idée du rôle de l'État et quelles conséquences pour les citoyens? Si c'était un mot qu'il résumait, celui de l'État plateforme.
Le Code a changé, le podcast de nos révolutions digitales.
Abonnez-vous sur franceinter.fr et l'application Radio France.
Mince, une fuite en plein yoga. Ah mais ouf, je peux me donner à fond sans crainte maintenant avec Always Discreet. Ça retient toutes mes fuites urinaires et je me sens protégée dans toutes les situations. Always Discreet, protection fiable, discrétion incroyable. Dispositif médical.
France Inter présente, on ne plaisante pas avec l'humour.
La tournée des humoristes France Inter, c'est reparti. Oui, la fine fleur de l'humour du service public, celui qui vous met en joie chaque jour, is back. Oui, l'humour, tous les humours, même l'humour drôle.
On ne plaisante pas avec l'humour, le 24 mai à Clermont-Ferrand et le 23 juin à Lyon.
Au casting, il n'y a que du bon et même de l'excellent.
Toutes les infos sur franceinter.fr.
France Inter, il est 10h passé de 5 minutes. Tout de suite, grand bien vous fasse avec vous, Ali Rebeilly, bonjour.
Bonjour Timur Öztürk. Vous étiez sportif quand vous étiez jeune?
Un petit peu, quand j'étais jeune.
Ouais, quel sport?
Du volley, un peu de tennis aussi.
Ah, comme Laetitia Gaillé, donc c'est le point commun avec Laetitia Gaillé, voilà. Le volley.
C'est d'accord. Une condition pour venir présenter
exactement.
Les
flashs. Vous continuez d'ailleurs?
Pas du tout.
Ah non, d'accord. Bon, bah écoutez, on se retrouve de toute façon à 11h.
Tout à l'heure.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. Plus de sport à l'école, c'est l'une des priorités affichées du gouvernement, mais seule la moitié des garçons et le tiers des filles atteignent les recommandations de l'OMS en matière d'activité physique et sportive. Des jeunes de plus en plus sédentaires, la crise sanitaire et les confinements successifs n'ont rien arrangé. Les JO cette année dans notre pays leur donneront-ils le goût du sport? Quoi qu'il en soit, ils sont tout de même environ 7 millions à pratiquer en club et de la maternelle au lycée. Tous les élèves suivent des cours d'EPS. Alors, quels sont les réels bienfaits physiques, psychologiques, sociaux du sport et de l'activité physique chez les jeunes? En EPS, à la maison, en regardant des vidéos sur Internet, en club, en salle de muscu, de façon informelle, au pied d'un immeuble ou dans un skatepark, nous verrons ce qui motive les jeunes à pratiquer et ce qui leur fait perdre l'envie de faire du sport. Et un leitmotiv ce matin, comment faire pour qu'ils prennent plaisir à faire du foot, de la natation, du basket, de la danse, de la gymnastique ou du tennis. Les enfants et les ados peuvent nous appeler pour évoquer leur goût ou leur total désintérêt pour le sport. Les adultes peuvent également nous appeler sur WhatsApp et au standard au 01 45 24 7000 en laissant des messages et des notes vocales sur l'appli France Inter, sans oublier la page Facebook de Grand Bien vous fasse. Bonjour Gwenaëlle Boulay.
Bonjour.
Je sens que vous faites partie de la team Churchill. No mais sport, non. No sport, pas de sport.
Non, moi j'ai un peu honte, mais je vais pouvoir étaler devant la France entière ma passion de ma famille pour le sport.
Dans votre chronique Ma vie de parent, tout à l'heure. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rebeilly, Grand Bien vous fasse.
Rico, t'es le patron, tu les emmènes, ils comptent sur toi, nous aussi, d'accord?
On est venu dans cette équipe pour Tom, et comme il est pas là, on est triste. Enfin, on va tout faire pour gagner ce match.
Resserrez-vous les minots, là. Bon, on perd. Et on joue bien. Et vous savez pourquoi on joue bien? Parce qu'on s'aime. Hein? Toi, tu m'as éclaté, toi. Hein? On s'aime. Alors battez-vous jusqu'au bout. Hein? Faites-vous plaisir. Hein? Il nous reste une mi-temps. Hein?
Alors je veux du Doumbiac sur le terrain. Hein? Allez, Doumbiac.
Bon, allez, prépare-toi, tu vas rentrer.
Merci, coach. Je vais tout casser.
Le personnage de Gérard Lanvin qui entraîne avec passion l'équipe de rugby de son fils. Bonjour Guillaume Ditch.
Bonjour.
Vous êtes agrégé d'EPS, enseignant en STAPS à l'université Paris-Est Créteil. Et vous avez récemment publié « Les jeunes et le sport, penser la société de demain » chez Deux Boucs Supérieurs avec une préface d'Isabelle Kéval. Bonjour professeur Martine Duclos.
Bonjour Ali.
Je suis heureux de vous avoir en studio. Vous êtes l'une des expertes récurrentes de cette émission. Vous êtes chef du service de médecine du sport au CHU de Clermont-Ferrand et vous êtes la présidente de l'ONAPS, l'Observatoire National de l'Activité Physique et Sportive et de la Sédentarité. Bonjour Lise Anouri-Sighetti.
Bonjour.
Vous êtes psychologue clinicienne du sport à l'INSEP. L'INSEP, c'est l'Institut National du Sport. Vous êtes responsable de l'unité de psychologie du sport et vous travaillez avec des athlètes olympiques olympiques et paralympiques. Et un jeune sportif avec nous, bonjour.
Bonjour.
Virgile de la Morinerie, je me permets de te tutoyer car tu étais en stage chez nous en 3e dans Grand Main Vous Fasse. Tu es actuellement en seconde au lycée Victor Duruy à Paris et tu pratiques le rugby au Stade Français à un haut niveau. Et tu as commencé, tu nous l'expliqueras tout à l'heure, à l'âge de 6 ans. Alors, Guillaume Ditch, petit état des lieux du sport chez les jeunes, de la maternelle à la terminale. Quelle place à l'école pour l'EPS, l'éducation physique et sportive? Un mot tout de même rapide sur l'EPS, ça recouvre quoi exactement? Il ne s'agit pas de faire bouger pour faire bouger, hein.
Effectivement, on a différents dispositifs actuellement qui se développent à l'école avec, il est vrai, une urgence sanitaire, vous l'avez rappelé. Il y a des dispositifs autour de l'idée de mettre en mouvement les jeunes par rapport à cette problématique de sédentarité, notamment 30 minutes à l'école.
On y reviendra, mais c'est quoi l'EPS exactement? Et de la maternelle à la terminale, qu'est-ce que ça recouvre?
C'est une discipline scolaire, effectivement, où au-delà de cette mise en mouvement, il y a des réels apprentissages. Alors certes, pour les bienfaits pour la santé des jeunes, mais aussi, on l'oublie, au niveau des habiletés motrices, des jeunes, des compétences psychosociales, on parlait du rugby justement, être solidaire en sport collectif, gérer ses émotions en escalade, ce sont des compétences psychosociales qu'on développe en EPS avec des apprentissages notamment sur la motricité pour nos jeunes de la maternelle et vous l'avez dit jusqu'au lycée.
Et vous dites que l'EPS contribue à la transmission d'une culture sportive et corporelle partagée.
Tout à fait. Ce qui est important de dire, je pense, c'est que l'ensemble de jeunes d'une génération passent par ces disciplines obligatoires à l'EPS, 3 heures à l'école jusqu'à 2 heures au lycée. Et de là, nécessairement, il y a une ambition, effectivement. Alors la culture en EPS, c'est la pratique sportive, mais diversifiée. Donc pas simplement des sports collectifs, mais aussi des activités artistiques, des activités de pleine nature. Et se dire qu'à la fin de la scolarité obligatoire au lycée, le jeune, justement, il doit pouvoir avoir accès et s'ouvrir à cette culture sportive, mais vraiment autour de l'art, le dépassement de soi ou encore l'entretien aujourd'hui, qui est une pratique qui se développe chez les jeunes autour de la musculation principalement.
Je vous cite, l'EPS constitue l'un des derniers espaces de mise en jeu du corps commun à toute une génération d'élèves.
Oui, c'est vrai qu'on parle de sédentarité. Alors Martine Duclos avec l'ONAPS, effectivement, le rappelle. Hein. Cette idée que simplement 50% des garçons, 30% des filles répondent à ces recommandations. Alors c'est pas 30, mais c'est 60 minutes d'activité physique quotidienne chez les jeunes. Pour autant, l'EPS, effectivement, met le corps au centre, effectivement, de son enseignement. Et de là, ça amène peut-être une réflexion au-delà de l'EPS sur d'autres disciplines scolaires, puisque on le voit, alors on parle des jeunes, mais finalement l'ensemble des générations, on est de plus en plus en situation de sédentarité, alors au travail, parfois sur le télétravail. Et de là aussi, ça amène une réflexion peut-être sur des espaces scolaires pour que demain, nos jeunes ne soient pas systématiquement dans une situation, je dirais, de sédentarité, donc assis sur une chaise pendant 8 heures sur une journée. Parce que là aussi, peut-être pour finir sur cette réflexion, l'EPS, elle permet justement d'améliorer la performance scolaire aussi.
Aller en cours d'EPS n'est pas toujours un plaisir hein, pour les élèves. Le plaisir, c'est l'une des clés pour donner envie de s'engager dans une activité physique et sportive.
Oui, au-delà des discours, des savoirs médicaux, important puisque on parle de cette urgence sanitaire, il y a aussi des leviers motivationnels et aussi des réalités sociales. Et de là, effectivement, il y a cette idée que par le plaisir, justement, on peut se garantir d'une pratique durable pour plus tard. Parce que c'est ça l'enjeu. C'est permettre aux jeunes, plus tard, dans un mode de vie plus actif, qu'ils puissent intégrer l'activité physique. Pour autant, il ne suffit pas de le décréter, de dire qu'il s'agit d'avoir un sport plaisir pour plus tard. Et de là, l'EPS, effectivement, mais aussi les associations sportives doivent garantir cette idée que le jeune, justement, puisse avoir une expérience positive, avoir confiance en soi, être valorisé dans sa pratique sportive pour que demain, justement, il puisse la prolonger.
Professeur Martine Duclos.
Oui, je suis complètement d'accord. Le plaisir, c'est l'élément le plus important. Mais je crois que les jeunes aussi sont en train de comprendre qu'il y a aussi des effets sur la santé. En fait, ils connaissent les effets sur la santé. Il y a aussi le fait que le sport ou l'activité physique leur permet aussi d'avoir des relations sociales. Et c'est aussi une voie d'entrée. C'est-à-dire faire du sport, c'est le faire aussi entre des amis. C'est donner des compétences sociales. Donc ça aussi, c'est un élément extrêmement important. C'est aussi effectivement, comme vous le disiez, un sentiment de compétence. Et donc le fait d'avoir un niveau, de se rendre compte qu'on est capable de faire des choses, qu'on est capable de progresser. Et puis l'aspect ludique aussi est un élément important. Donc en fait, et puis il y a aussi un élément qui, je pense, est aussi très important dans le monde de vie, dans le monde dans lequel on vit. C'est surtout tous les sports qui sont faits en extérieur. On passe 80 à 90% du temps enfermés. dans des bâtiments. Alors la lumière, c'est un élément extrêmement important pour nos cycles hormonaux. Alors il n'y a pas que celui du veille-sommeil, il y a aussi au niveau du cerveau, du muscle, de l'estomac. Enfin, tous nos organes ont des cycles qui sont liés à la lumière. Et puis dehors, il y a du vert. Et le vert, c'est contre l'anxiété. Donc en fait, tous ces éléments font que c'est extrêmement important. Et je pense que les enfants sont très sensibles à ça.
Lise Anouri Zighetti.
Oui, mais pour reprendre ce qui a été dit juste avant, il est important que le jeu soit prioritaire avant l'enjeu et que cette notion de plaisir puisse perdurer. Parce qu'on remarque finalement que parfois, ce qui fait que les enfants arrêtent, c'est parce qu'ils n'y trouvent plus de plaisir ou alors que ce n'est pas finalement leur projet, mais le projet peut-être d'un parent, d'un éducateur. Donc que le jeu reste au centre et que le plaisir reste au centre. Et effectivement, sur les aspects sociaux, ils ont un vrai sentiment d'appartenance qui se crée à travers le sport, que ce soit en sport individuel ou collectif, évidemment. Mais ce sentiment de faire ensemble, d'appartenir à une équipe, de se construire et aussi de trouver sa place et de voir que même si on est différent, finalement chacun a sa place et peut apporter sa pierre à l'édifice.
Guillaume Ditch.
Je rejoins effectivement complètement cette idée de socialisation par le sport. Pour autant, aujourd'hui, il y a une réalité aussi, et peut-être une société un peu paradoxale, notamment chez les jeunes, c'est qu'il y a tout autant un besoin de se socialiser alors par le sport, mais aussi par d'autres loisirs. Pour autant, on est face à une génération aussi de plus en plus connectée et qui, d'une certaine manière, aussi pratique de manière plus solitaire, aussi par des communautés, par des applications, par les réseaux sociaux. Donc, il y a une forme de paradoxe. Mais il est vrai que si on réfléchit à cet objectif aujourd'hui, peut-être de vivre ensemble, il y a nécessairement peut-être à repenser ces liens, à se connecter, mais aussi, et Martine Duclos l'a dit, peut-être en lien avec une réalité aussi actuelle. On parle de santé physique, mais aussi la question de la santé mentale. Et il est vrai qu'aujourd'hui, les études montrent que face aux problématiques d'anxiété, mais aussi d'éco-anxiété, cette idée de pratiquer en milieu naturel, mais aussi de manière déconnectée, donc sans application, sans objet connecté, c'est certainement aussi un besoin actuel et à venir.
Professeur Martine Duclos.
Oui, mais pour aller dans ce sens-là, effectivement, les études aussi montrent que les jeunes qui font le plus de sport, c'est ceux qui sont adhérents à un club ou qui sont affiliés à une fédération. Parce que justement, ils ont cette relation sociale et donc ils sont en dehors, effectivement, des réseaux sociaux. Ça permet de s'échapper des réseaux sociaux. Donc effectivement, c'est paradoxal, mais ceux qui en font le plus, c'est effectivement ceux qui en font en dehors des réseaux sociaux.
Complètement. Après, il y a une problématique aussi, c'est que on parle beaucoup de plaisir ou effectivement les clubs sportifs. La réalité, c'est qu'il y a aussi des problématiques de décrochage de l'activité physique et sportive, et principalement autour de 11-12 ans.
Oui, donc à ça l'entrée au collège.
C'est l'entrée au collège, aussi le période de l'adolescence, pour faire simple. Mais dans cette idée, ça interroge aussi le modèle sportif qui, historiquement, quand même, et encore aujourd'hui, est fondé sur la compétition. Pour autant, les jeunes, aujourd'hui, c'est pas l'aspiration première. C'est effectivement le bienfait sur la santé, le plaisir, la convivialité aussi, donc la dimension collective. Et la compétition, dans toutes les études, alors l'ONAPS, les baromètres de pratique sportive, montrent que la compétition, c'est plutôt en 7e, 8e position. Donc ça montre aussi que les associations sportives, le PS aussi à l'école, doit nécessairement aussi proposer d'autres modalités de pratique pour attirer ces jeunes.
Toi, Virgile, qu'est-ce qui te motive à faire du sport? Parce qu'évidemment, tu suis les cours de PS au lycée, mais tu es également en club au Stade Français, au rugby. Qu'est-ce qui te motive?
Moi, ce qui me motive principalement, c'est vraiment déjà parce que je retrouve mes amis là-bas. Donc ça me fait plaisir d'y aller. Et juste de faire du sport, moi, ça a toujours été quelque chose de très important pour moi.
Pourquoi?
Parce que déjà, j'ai démarré assez tôt. À 6 ans, j'ai démarré le rugby. Et en fait, j'ai toujours adoré. J'ai jamais vraiment trouvé de point négatif au sport. Et ça m'a permis toujours d'avoir quelque chose en dehors de l'école et en dehors de la maison. Et donc, c'est ça qui me donne envie vraiment d'aller à chaque fois.
Est-ce que tu trouves le même plaisir en cours d'EPS?
Non.
Pourquoi?
Parce que les cours d'EPS, forcément, je fais pas de rugby, déjà. Et je trouve que c'est des sports très différents. Puis, on est beaucoup dans les classes. Donc les professeurs n'arrivent pas toujours à capter notre attention, nous expliquer ce qu'ils veulent. Et donc c'est des processus qui vont être un peu plus longs que le rugby où je suis avec des personnes qui connaissent déjà très bien le sport et où on prépare certains matchs, une compétition, donc c'est vraiment différent.
Guillaume Ditch.
C'est nécessairement différent, vous l'avez bien précisé. Il y a effectivement déjà une réalité, c'est que lorsqu'on se dirige vers un club, on est nécessairement aussi déjà motivé, on est volontaire pour faire cette activité sportive. Là, effectivement, l'exemple du rugby. En EPS, l'enseignant est face à effectivement une diversité d'élèves qui n'ont pas forcément tous une appétence pour le sport. Et vous avez très justement précisé aussi une réalité, c'est que en termes de conditions, au lycée, c'est très souvent 35-40 élèves. Donc une difficulté aussi pour l'enseignant, au-delà de capter l'attention, aussi s'intéresser à chaque élève. Et aussi une réalité, on parle aussi d'accès à la culture. Aussi, il y a une réalité, c'est les conditions matérielles aussi. Les installations sportives, on est très souvent sur une pratique inférieure, effectivement, à 2 heures au lycée.
Lise a nourri Sighetti.
Oui, et par rapport à ce que disait jeune rugbyman à côté de moi, en fait, il y a aussi cette notion de construction identitaire à travers le sport qui est importante et qui se développe beaucoup dans les clubs. On le voit après dans le haut niveau, avec tous les sportifs de haut niveau aujourd'hui, la plupart ont commencé jeunes, vers 5-6 ans, et se sont construits, ont évolué, ont traversé leur adolescence à travers le sport. Et pour beaucoup, ça les a aidés aussi à dépasser les difficultés qu'on peut rencontrer quand on est adolescent. Et surtout, ce qui est important, c'est que de réfléchir à pourquoi eux, ils ont... Enfin, on n'est pas obligé de faire du sport de haut niveau, bien sûr, mais comment ils ont réussi à garder ce plaisir et ce goût pour le sport. Et effectivement, garder ce sens pour soi, c'est ce qu'il y a, je pense, de plus important.
Tu es d'accord avec ça, Virgile ?
Je suis complètement d'accord.
Bon, mais très bien. On se retrouve dans quelques instants. Comment leur redonner aux jeunes le goût du sport ? On en parle juste après avoir écouté les Clash, Should I Stay or Should I Go, un titre de 1982 qui me donne très, très, très envie de bouger. 10h20 sur France Inter. To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? Decisions bugging me. Indecision, me molesta. If you don't want me, set me free. Say let me kill this ego, man. Exactly whom I'm supposed to be. Yeah. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Les Clash, Should I Stay or Should I Go?
Les enfants, je vous rappelle que cette année, les cours de sport comptent dans la moyenne générale. Un esprit sain dans un corps sain.
Grand bien vous fasse.
Et moi, tu m'as trouvé quoi comme dispense de sport cette fois?
Vous savez bien, monsieur, je me suis fêlé la canicule.
sur France Inter.
Quels sont les réels bienfaits du sport chez les jeunes? C'est notre thème ce matin. Alors, professeur Martine Duclos, je rappelle que vous êtes chef du service de médecine du sport au CHU de Clermont-Ferrand. Alors, en dépit des heures d'EPS obligatoires, l'activité physique et sportive des jeunes est insuffisante. Les jeunes sont trop sédentaires. Tout d'abord, qu'est-ce que la sédentarité d'un point de vue médical? Et quelle est la différence entre la sédentarité et l'inactivité physique? On confond souvent les deux.
Oui, les deux sont confondus. Autant les effets de l'activité physique sont bien connus, quoique les enfants et les parents connaissent mal les recommandations d'activité physique, donc c'est au moins une heure d'activité physique tous les jours.
La sédentarité, c'est quoi exactement ?
Sédentarité, c'est le temps que vous passez assis entre le moment où vous vous réveillez le matin et le moment où vous vous couchez le soir. Donc vous comptez tous les temps passés assis, donc pour les enfants à l'école, lors des études, lors des déplacements quand vous êtes assis, et puis lors des loisirs. Alors quand les loisirs sont les écrans, les jeux vidéo, on arrive vite à 10-12 heures. Et en fait, il est montré que pour les enfants, à 7 ans, le temps passé assis, c'est 50% de la journée, du temps éveillé. Et à 14-15 ans, c'est 75% du temps éveillé. Donc c'est dramatique parce que la journée ne fait que 24 heures. Vous mettez 10-14 heures de temps éveillé. Eh bien, si vous faites 75% du temps passé assis, le reste, c'est pas de l'activité physique. Donc c'est du temps d'activité physique en moins. Et donc on sait que cette sédentarité, déjà, elle impacte sur la santé des enfants et des adolescents, puisque c'est un facteur de risque d'obésité. Et juste à titre d'exemple, le diabète de type 2, moi quand je suis endocrinologue, quand j'ai fait mes études, il y a quelques décennies, le diabète de type 2, on l'appelait le diabète de la maturité, vers 50-60 ans. Maintenant, le diabète de type 2, on le voit apparaître chez des adolescents. Le taux de diabète de type 2 chez les adolescents a été multiplié par 4.
4 ?
Par 4 sur les dernières années. Je veux dire, vous m'auriez dit ça quand je faisais mes études, enfin tous les gens de ma génération, qu'on pouvait voir apparaître un diabète de type 2 chez les adolescents, c'était inimaginable. Et pourquoi ? À cause de l'alimentation, de l'inactivité physique et du temps passé assis. Et l'inactivité physique, donc, c'est le fait de ne pas faire assez d'activité physique.
Quelques chiffres, 37% des enfants de 6 à 10 ans et 73% des jeunes de 11 à 17 ans n'atteignent pas les recommandations en matière d'activité physique. Rappelez-nous, c'est...
Donc c'est au moins une heure d'activité physique tous les jours, plus trois fois par semaine des activités pour stimuler la croissance osseuse.
Et un tiers des enfants de 6 à 10 ans, 30% précisément, ne pratiquent pas de jeux de plein air au moins une fois par jour. C'est quand même assez énorme.
Je vais donner un chiffre qui est encore moins bon. Il n'y en a que 5% qui sont à la fois physiquement actifs et non sédentaires.
Alors, selon l'ONAPS que vous présidez, la sédentarité des enfants et des adolescents, c'est une bombe à retardement sanitaire.
Oui, parce que là, on est vraiment assis, ils sont vraiment assis sur un ballon qui va exploser parce que ils impactent déjà leur santé. On voit l'obésité qui augmente, le taux d'obésité qui augmente. Cette obésité, elle fait le lit du diabète de type 2, des maladies cardiovasculaires et donc du risque de cancer. Et donc, c'est pour ça qu'actuellement, la première cause de mort subite à 30 ans, tenez-vous bien, c'est l'infarctus du myocarde à 30 ans. Pareil, c'est inimaginable. Et quand on a fait un infarctus du myocarde, ça veut dire que dans le vaisseau, il y a eu des plaques d'athéromatose de cholestérol. Et ça veut dire que ça a mis 15-20 ans. Et on sait qu'un enfant qui a une obésité à 7 ans, même si après, il a un poids normal, ce qui est d'ailleurs peu probable parce qu'il a 70% de risque de devenir un adulte obèse, mais imaginons qu'il ait après un poids normal, eh bien on sait qu'à 40-50 ans, il a 2 à 3 fois plus de risque d'avoir une maladie cardiovasculaire ou une autre maladie.
Et quels sont les méfaits de la sédentarité, de l'inactivité physique des jeunes, d'un point de vue psychologique, Lise Anouri-Sighetti?
Je pense qu'il y a, il y a d'abord sur la concentration, c'est-à-dire que on ne peut pas rester concentré. Enfin, tout être humain, qui est en bonne santé, ne peut pas rester concentré longtemps. Donc, en plus, s'il y a de la sédentarité et qu'il n'y a pas de moyen finalement d'extérioriser et d'exprimer ses émotions, d'exprimer tout ce qui leur passe par la tête. On voit bien les enfants parfois nous disent j'ai besoin de me défouler. On voit c'est des piles électriques qui sautent partout dans la maison. Donc, ils ont ce besoin d'extérioriser. Donc sur la concentration et sur l'anxiété aussi. Il y a évidemment moins d'anxiété quand on a pu se défouler, quand on a pu exprimer les choses à travers le corps.
Guillaume Ditch.
Oui, toutes les études montrent sur l'aspect santé mentale qu'il y a aussi une explosion. On parle beaucoup de sédentarité, hein, mais aussi une explosion de troubles psychologiques sur ces états effectivement d'anxiété. Alors très tôt, hein, dès 6 ans à l'école.
Ça s'est accéléré avec la crise sanitaire et les divers confinements. Et c'est vrai que Santé publique France alerte sur la dégradation de la santé mentale des jeunes.
Oui, il y a une dégradation forte de ce point de vue-là, mais tout est systémique, puisque de ce point de vue-là, ça interroge nécessairement aussi nos modes de vie. On parle beaucoup des jeunes, mais sur nos modes de vie, on a parlé aussi de cette question de l'éco-anxiété, puisqu'on est quand même face à une génération, cette génération alors un peu plus âgée, hein, la génération Z, née après les années 2000, qui aussi fait face à différentes crises, alors sanitaires, mais aussi crise sociale, une urgence climatique, qui amène aussi une accélération de ces problématiques. Donc peut-être aussi qu'on pourrait amener une réflexion effectivement aujourd'hui sur nos modes de vie, nos modes de déplacement aussi, cette nécessité aussi d'avoir un temps de déconnexion. Et je pense que l'activité physique et sportive, au cœur aussi des politiques publiques, pourrait amener effectivement cette évolution et cette réflexion.
Ton regard, Virgile, je rappelle que tu es lycéen et rugbyman. Est-ce que tu constates chez toi le fait d'avoir fait du sport depuis très longtemps, depuis l'âge de 6 ans, des bienfaits tout de même sur ta santé mentale, sur ton équilibre psychologique ?
Oui, alors, donc le sport, moi c'est surtout en club que j'en ai fait. Ça permet vraiment, c'est une sorte d'évasion, un peu quand même, de l'école, parce que déjà on est avec d'autres personnes que les personnes qu'on fréquente chaque jour. Mmh. Et donc oui, ça permet de vraiment se concentrer sur autre chose et d'oublier un peu tout ce qu'il y a d'autre. Moi je sais qu'il y a aussi beaucoup de gens de mon âge qui pratiquent la musculation, moi aussi. Et ça aussi, c'est quelque chose qui permet, au-delà des sports collectifs, de s'évader et de passer du temps avec d'autres personnes.
On reviendra tout à l'heure sur la question de la musculation chez les jeunes. Professeur Martine Duclos.
Il y a eu des expériences, par exemple, soit dans le cadre des 30 minutes d'activité physique quotidienne, qui peuvent être faites pendant la classe, en faisant des ruptures pendant la classe, ou alors en mettant des bureaux actifs dans la classe où les enfants pédalent pendant le cours. Et donc, toutes ces expériences ont montré, si on prend le témoignage des enfants, les enfants disent, mais la classe, elle est beaucoup plus calme. Les deux ou trois là qui s'énervaient, qui étaient très actifs, c'est beaucoup plus calme. On n'a plus d'explosion. Et donc, les professeurs disent que, effectivement, les enfants sont beaucoup plus attentifs. Et on a aussi des témoignages sur les enfants qui font du sport, ou les adolescents, quand on leur demande pourquoi vous faites du sport, et ils le disent, comme tu le dis, Virgile, hein, ça me permet de me vider la tête. Ça me permet de penser à autre chose. C'est effectivement un bon moyen pour calmer l'irritabilité et le stress.
Moi, à titre personnel, la meilleure psychothérapie, ça a toujours été le sport, le fait de bouger et de s'activer physiquement. Guillaume Ditch.
Oui, complètement. Effectivement, aujourd'hui, on est quand même face à des jeunes qui ont comme priorité cette idée de faire du sport pour se défouler aussi, se libérer un peu de son quotidien. Pour autant, ce que j'aimerais peut-être rajouter, c'est se dire que au-delà effectivement de l'urgence sanitaire, cette bombe sanitaire à retardement, et Martine Duclos l'a très justement rappelé, il y a aussi cette question de se dire que ça s'apprend. Il ne suffit pas de le décréter pour que plus tard, effectivement, on adopte tout un chacun ce mode de vie actif. Et de là, au Canada, notamment, ce qui est intéressant, c'est qu'ils développent cette idée de littératie physique. Se dire que finalement, auprès des jeunes,
c'est quoi, exactement ?
La littératie physique, c'est se dire qu'il y a, cette idée de développer des habiletés motrices, la confiance en soi et des compétences pour que demain, le jeune soit autonome dans sa pratique physique. Donc, c'est cette idée, finalement, d'une génération qu'il s'agit d'alphabétiser, mais physiquement. Donc par l'apprentissage d'habiletés motrices, alors dès l'école et en maternelle, c'est pour ça qu'en maternelle on parle de motricité, on ne parle pas d'EPS, et progressivement par l'activité physique, effectivement permettre aux jeunes, plus tard en tout cas, qu'ils puissent être éduqués. Donc j'insiste sur la dimension éducation, et surtout, tu l'as très justement dit à travers le rugby aussi, qu'ils puissent avoir plaisir, effectivement, par une pratique, mais aussi par la musculation ou d'autres pratiques, qu'ils puissent le prolonger plus tard.
Lisa Nouri-Sighetti.
Oui, en fait, il y a aussi cette idée que l'enfant, à travers le sport, apprend à se connaître. Connaître déjà, bien sûr, comment son corps fonctionne, mais aussi comment il gère ses émotions. Et en fait, ça va lui donner des billes et des ressources pour la suite, d'apprendre à se canaliser. Il y a aussi des règles dans le sport. On ne fait pas ce qu'on veut à n'importe quel moment. Il y a un cadre. Et ça va lui servir tout au long de sa vie. Je pense que dans le rugby, je vois Virgile à côté de moi hocher de la tête. C'est ça, c'est qu'en fait, il y a des règles, il y a un cadre, on fait du sport, on s'exprime à travers le corps, on va dans l'adversité, on a envie, il y a un jeu, on a envie de gagner, mais il y a des règles.
Virgile ?
Oui, c'est ça, exactement. Donc moi, c'est l'exemple du rugby où il y a énormément de règles, mais donc il y a déjà respecter l'arbitre, qui est la règle fondamentale, et après avoir respecté toutes les règles, il y a aussi notre coach qui va nous dire exactement ce qu'il faut qu'on fasse pendant le match, etc. Et donc vraiment le rugby, ça apprend à, enfin le rugby ou le sport en général collectif, ça apprend à être en équipe, comprendre ce que le rôle de chacun, et aussi de respecter des règles précises et de les appliquer.
Et également, tu nous as parlé en préparant cette émission des capacités d'observation que le rugby t'a donné et qui te sont utiles dans ta scolarité.
Bah, au rugby, c'était... Je suis à un poste où...
Quel poste d'ailleurs ?
Ailier. Et il y a certaines actions, quand on est en défense, où je suis reculé par rapport aux autres. Mm-hmm. Et donc c'est moi qui dis un peu, par exemple, décalez-vous vers la droite parce qu'il y a des adversaires ici. Et ces capacités d'observation, c'est surtout... je le remarque en EPS, en fait, où il y a parfois des choses que je remarque et que d'autres n'avaient pas remarqué.
Ça a été démontré, effectivement, en psychologie cognitive, cette capacité à prendre des décisions, notamment par le sport collectif. On peut très vite, effectivement, le réinvestir. Il y a des études qui l'ont montré. Alors, même au niveau du code de la route, il y a plein d'éléments qui sont assez intéressants. Mais ça montre une chose, c'est qu'effectivement, au-delà de faire du sport, ce qu'on peut entendre, et de l'enjeu sanitaire, il y a une éducation sportive qui permet le développement aussi des compétences psychosociales. Et peut-être que ça amène aussi une discussion, une réflexion sur l'idée peut-être de mieux considérer la place de l'EPS à l'école, mais aussi mieux considéré par les parents, notamment, et dans le cadre de l'orientation plus tard.
Martine Duclos.
Juste brièvement, et même il est bien montré que l'activité physique et sportive régulière chez les enfants augmente les performances cognitives. Mmh. C'est bien démontré.
Tiens, justement, ton père nous a dit, en préparant cette émission, que tu étais plutôt bon élève. Est-ce que tu as l'impression que le fait que tu pratiques le sport depuis si longtemps, en club notamment, ça a un impact sur tes résultats scolaires et sur ta capacité d'apprentissage?
Oui, j'imagine que c'est peut-être pas juste une coïncidence, il doit y avoir une relation entre les deux. Mais le sport, oui, ça, je pense que ça apprend à déjà se faire confiance, mm-hmm. tout simplement, parce que même que ce soit à l'école ou dans n'importe quelle situation, la confiance, c'est très important. Et donc oui, pour revenir sur l'école, je pense que ça permet de vraiment comprendre ce qu'on nous explique, d'arriver à toujours être attentif. Je suis sûr que le sport, ça apporte quelque chose pour l'école.
Guillaume Ditch.
Par contre, ça pose peut-être la question aussi, dans le cadre notamment des sportifs de haut niveau, peut-être comme Virgile, du double projet. Projet entre l'école, effectivement, sportif de haut niveau. Peut-être Lise pourra compléter aussi avec son regard au niveau de l'INSEP. Mais ça montre aussi une chose, c'est que lorsque, pour un jeune, le bien-être, son plaisir autour du rugby, autour d'un sport est au centre, nécessairement, ça permet effectivement d'allier la performance scolaire, l'école et ce bien-être. Mais dès qu'effectivement on a peut-être certaines dérives sur cette idée de se projeter tout de suite sur la haute performance et pas nécessairement sur le projet du jeune dans sa scolarité, ça met peut-être à mal l'intérêt du sport à l'école et pour le jeune.
Lise Anouri Ozighetti.
Effectivement, dans le haut niveau, faut se dire que le sport prend 30 à 40 heures par semaine, hors école, hors possible vie sociale qui reste. Et effectivement, avoir ce double projet, c'est-à-dire réussir à l'école, parce que ça fait aussi partie des conditions pour continuer le haut niveau, en tout cas dans certains établissements, c'est pas évident. Et par contre, ça leur apporte aussi évidemment des ressources, c'est-à-dire qu'ils ont la rigueur, le travail, l'effort, c'est des choses qu'ils pratiquent au quotidien à travers leur sport. Donc c'est aussi utile dans leur scolarité, bien sûr.
Alors vous me disiez hors antenne qu'il fallait faire attention à sa place de parent et dans sa projection par rapport aux enfants. Projeter ses propres désirs, ses propres rêves sur ses enfants.
Effectivement, je pense qu'il est bien de ne pas tout confondre. C'est évidemment hyper très important d'encourager son enfant à faire du sport, à pratiquer, à se dépenser, quel que soit le sport et quelle que soit la pratique. Mais attention de ne pas projeter ce que nous, en tant que parents, nous n'avons peut-être pas fait ou pas réussi à faire, quelles que soient les raisons, et à ne pas, à travers notre enfant, l'encourager à tel point que ça ne devient plus son projet à lui, mais plutôt le projet des parents.
Guillaume Ditch.
De ce point de vue-là, je pense que le regard sociologique est toujours intéressant aussi, avec la dimension psychologique. Hein. Au niveau de l'héritage, on parle beaucoup de l'héritage, peut-être aussi par rapport aux Jeux Olympiques et Paralympiques. La réalité aussi aujourd'hui, c'est que l'héritage, donc la transmission du goût du sport pour son enfant, il se fait encore principalement par le père. Alors parfois, on en a entendu parler, certaines dérives autour de l'activité football, mais pas que. Hein.
Sur les bords de stade, où il y a des parents qui ont des comportements toxiques, faut le dire, par rapport aux entraîneurs, par rapport aux arbitres, avec parfois des comportements de violence verbale, voire physique.
Effectivement, ça montre, je pense, deux choses. Déjà, cette question, plus que de double, je parlerais peut-être de triple projet. Cette idée que, encore une fois, vous avez l'école, la performance sportive, mais ce qui doit être au centre dans ce triple projet, c'est le bien-être de l'enfant, par rapport à cette projection. Et ensuite, je parlais d'héritage par le père et la mère. Ça montre peut-être aussi aujourd'hui un enjeu important dans la société autour de la place de la femme. C'est se dire aussi que si on souhaite que plus de filles pratique une activité physique et sportive régulière, nécessairement aussi il y a une transmission d'une culture par la mère à faire, et de là peut-être un accompagnement à avoir par des associations ou l'école.
Professeur Martine Duclos.
Oui, mais là, on parle beaucoup du sport compétition. C'est-à-dire que les enfants, ils ne vont pas tous vers la compétition. Ils vont à la compétition quand ils sont plutôt enfants. Et on sait qu'effectivement, vers l'adolescence, il y a une grande partie des enfants qui arrêtent la pratique d'un sport dans un club.
Il y a une grande déperdition entre 15 et 20 ans.
Ah oui, énormément. Donc il faut aussi voir que dans la pratique du sport, tout simplement du sport loisir, chez les enfants, les parents jouent un rôle majeur. Parce que c'est parce que les parents font du sport, en tout cas vont bouger le week-end, que les enfants vont bouger le week-end. Donc vraiment, je réinsiste sur le rôle des parents dans le sport tout venant, dans le fait de bouger le week-end, d'aller faire du vélo, d'aller randonner, d'aller se promener, pour pouvoir faire que, en dehors justement de l'EPS, que les enfants puissent pouvoir bouger le week-end. Et après, effectivement, le rôle du père et de la mère, effectivement, il est important que les deux soient impliqués pour montrer qu'effectivement, tout le monde peut bouger. Alors effectivement, le rôle de la mère aussi est important, parce qu'il y a un gros problème, en particulier à l'adolescence, de différence entre les garçons et les filles dans la pratique de l'activité physique et sportive.
Lisa Nourry-Sighetti.
Oui, effectivement, à l'adolescence, avec tous les changements corporels qui sont bien là, il y a beaucoup de jeunes filles qui arrêtent parce qu'elles se sentent plus à l'aise dans leur corps, elles se sentent complexées, il y a le regard de l'autre. Il suffit aussi de faire un sport où on est en maillot de bain, où on est... donc on est plus exposé au niveau du corps. Et ce qui est important aussi de véhiculer, je pense à tout le monde et à tous les enfants, c'est aussi d'avoir ce regard bienveillant sur ces corps qui évoluent, que c'est finalement, d'instaurer juste que c'est normal, et d'avoir, un regard vraiment bienveillant, et pour que tous ces adolescents, filles et garçons, puissent le vivre au mieux.
Éléonore nous écrit: de nombreuses jeunes filles arrêtent le sport à l'arrivée des premières règles. Les professeurs d'EPS ne sont pas suffisamment formés à la santé menstruelle et ne prennent pas les cycles menstruels dans la pratique du sport des adolescentes. Martine Duclos.
Oui, tout à fait. Alors, ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que le sport... déjà, les filles sont beaucoup plus sensibles au regard des autres que les garçons. Elles sont extrêmement sensibles à ça. Que la puberté, c'est quand même de grosses modifications sur le corps, et plus chez les filles que chez les garçons. Et puis, la troisième chose, c'est que les règles du sport sont encore très, très, très genrées, très masculines. Et il n'y a que depuis quand même très peu d'années qu'on met le sport de haut niveau aussi en avant chez les femmes. On montre que les femmes, elles gagnent, et que le sport chez les femmes de haut niveau, ça peut être aussi très intéressant. Et ça, c'est quand même depuis très très peu de temps. On voit qu'en football, les femmes gagnent et qu'elles jouent super bien. On voit aussi qu'au volley, c'est le cas. Et ça, c'est vraiment tout nouveau.
Et c'est de plus en plus suivi par le grand public.
En plus.
Guillaume Ditch.
Oui, je pense que ce qui est important de dire, c'est que l'accès au sport est encore très marqué socialement. Mais aussi au niveau genré. On parlait effectivement ici de stéréotypes. Au-delà des chiffres, il y a quand même des inégalités, des réalités sociales assez différentes de ce point de vue-là. Et donc nécessairement, Martine Duclos en parlait, ça demande plus globalement aussi une visibilité, notamment au niveau médiatique. Et je pense que les grands événements sont intéressants dans ce cadre, pour finalement avoir un peu la figure modèle et permettre aux filles de se projeter aussi dans cette idée que le sport, c'est aussi pour les filles, c'est aussi pour moi.
Lisa Nourry-Sighetti.
Et de profiter justement des Jeux Olympiques et Paralympiques qui arrivent, où justement, en plus, on a une parité pour la première fois, homme-femme, dans l'équipe de France, et de pouvoir montrer à vos enfants, à vos filles, à vos garçons, que les filles pratiquent du sport. Alors, bien sûr, là, on parle de haut niveau, mais pratiquent du sport, les garçons aussi, et aussi avec la différence. On parle du handicap avec les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques, pardon. C'est ça aussi qui va être important, de pouvoir montrer que finalement, peu importe qui on est, on peut pratiquer et s'épanouir à travers le sport.
Toi, Virgile, les JO, tu les attends avec impatience ou pas du tout ?
Pour être tout à fait honnête, les JO, ça n'a jamais été quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup suivi. Mais cette année, c'est à Paris, donc c'est différent quand même. Donc je les attends. J'attends aussi l'Euro, ouais, qui a lieu un mois avant, c'est ça. C'est surtout l'Euro, mais je vais suivre les JO parce que... bon, je sais que c'est...
Est-ce que tu vas suivre comme sport ?
Les mêmes que mon grand-père qui va regarder la télé et la laisser allumer, c'est ça.
Ah, c'est génial de regarder les JO avec son grand-père. Allez, il est 10h, presque 44, l'heure de retrouver la chronique Ma vie de parent de Gwenaëlle Boulay.
France Inter.
C'est que sur les reproches, vous. Hein. On est là pour tout, pour tout, pour tout.
Grand bien vous fasse.
Si on peut aider des parents à mieux élever leurs enfants, après tout, pourquoi pas ?
Salut ! Merde !
Alors, Gwenaëlle, vous avez dû courir pour faire cette chronique, tant votre activité sportive du week-end a été très, très intense.
Hein. Ah oui, Ali. Car ce week-end, au moment d'écrire cette chronique, nous avions un peu, comme tous les week-ends, je dirais, un emploi du temps familial digne d'une préparation des JO. Alors, samedi matin, 8h30, footing en famille au bois, qu'avec ma fille, nous avons prolongé par un cours de pilates, pendant que les garçons faisaient le parcours de santé. Midi, déjeuner à la fois léger et protéiné, pour enchaîner sur une compétition de triathlon pour l'un et de natation pour l'autre. Samedi soir, récupération. Dimanche matin, au choix, salle de sport ou skatepark, pour finir par une petite randonnée à vélo, en fin de journée, grassement récompensée par un smoothie maison et un jus
de
détox.
Je vois que c'est un véritable emploi du temps de champion, vous m'épatez là, Gwenaëlle.
Ouais, bah non, Ali. Non, Ali, je plaisante, bien sûr, vous me connaissez maintenant. Alors, je sais que, bon, ce corps de rêve à la voix ferme et musclée malgré sa fin de quarantaine porte à confusion, mais je dois avouer que non. À l'exception de notre plus grand, qui est tellement porté sur le sport qu'en effet, il a choisi d'en faire son métier, le reste de la famille n'est pas du tout branché sport. À tel point qu'à table, quand, pour une fois, ma fille m'a demandé c'est sur quoi ta prochaine chronique, maman ? À l'annonce du thème, ça a suscité un immense éclat de rire, suivi d'un peu de compassion. Mais qu'est-ce que tu vas bien pouvoir raconter là-dessus ? Ce sur quoi notre fils a enchaîné par un magistral « Bah t'as qu'à dire que chez nous, c'est plutôt le marathon de la choucroute !» Voilà, les JO de l'apéro, la compète de la raclette, les championnats du chocolat. Chez nous, le sport, c'est plutôt ça. Alors attention, c'est pas qu'on n'a pas essayé. Tous les ans, mon mari et moi tentons, alors à tour de rôle, un abonnement à une salle de sport, en se disant que, un peu comme chez le psy, le fait de payer allait susciter chez nous, si ce n'est le désir de l'effort, au moins une forme d'obligation. Mais tous ceux qui ont déjà lâché moult chèques à Néonès ou autre club sentant la sueur et les larmes le savent, ça ne fonctionne pas.
Vous savez que le modèle économique de nombreuses salles de sport repose sur des gens comme vous.
Je sais, qui, mais j'aime bien.
Voilà, ceux qui ne vont pas à la salle, justement. Alors maintenant, la question est la suivante. Que faire pour entretenir son corps quand le sport n'est pas une passion ?
Déjà, je m'adresse à tous les gens de mon espèce et pas aux gens qui te disent « Non, mais tu vas voir, tu commences et après, tu peux plus t'arrêter. » C'est un peu comme les drogues. Ouais, bah, sauf que les drogues, j'aime pas trop, donc ça me parle pas trop. Bref, je pense que pour prendre soin de soi... Oh là, je vais y arriver ce matin. Bref, je pense que pour prendre soin de soi...
Arrêtez l'apéro.
Il faut d'abord désacraliser la notion de sport pour envisager les activités pour lesquelles on est prêt à fournir un effort. Donc, quelles sont les activités qui nous procurent du plaisir, seul ou en famille ? Quelles sont les habitudes quotidiennes qui peuvent nous permettre de bouger ? On n'a pas tous besoin de devenir marathonien ni champion de boxe. En revanche, nous avons tous besoin de faire un minimum d'exercice physique et nos enfants et ados encore plus. Donc oui, prendre son vélo, même électrique, pour aller au travail, faire des déplacements, permettre de se mettre en mouvement, troquer tous les ascenseurs contre les escaliers, faire des balades à pied, en vélo ou en roller en famille le week-end, repérer les trajets qu'on peut faire à pied régulièrement, profiter des vacances pour aller à la piscine, faire de l'acrobranche, de la marche en montagne, et bien sûr, inscrire les enfants à une activité sportive. Et tant pis si les premières années, ils demandent à changer tous les ans, parce qu'arrivé au mois de novembre, non, en fait, j'aime pas. Voilà, donc à un moment, le charme opère, et oh mais non, ne me dites pas qu'à vous aussi ça vous est arrivé, vous êtes désormais le dimanche à accompagner vos enfants à la compète de hand. Je vous avais dit que le sport c'était risqué.
Réaction, Lisa Nouri Sighetti.
Je pense qu'en fait c'est ça, c'est le plaisir qui doit être au cœur de toute activité physique et de toute pratique. Et c'est ça qui va donner la motivation de continuer et de le partager, que ce soit en famille ou entre amis.
Martine Duclos.
Petite remarque pour les parents, pour aider les parents. Il faudrait absolument, on travaille beaucoup là-dessus, quand les parents accompagnent les enfants pour faire du sport, qu'il y ait une activité proposée aux parents.
Ouais. Et tiens, sur le zapping d'activité, Guillaume Ditch.
Complètement, c'est ce que j'allais dire. Aujourd'hui, ce qui caractérise aussi le rapport des jeunes au sport, c'est ce zapping sportif. Vous l'avez bien dit, effectivement, dans votre chronique. Le fait d'arrêter très vite un sport dès qu'il ne répond plus finalement à sa motivation. Mais aussi la multipratique. C'est vrai que peut-être certains d'entre nous d'une autre génération, on était plutôt sur un sport, en club et durant plusieurs années. Aujourd'hui, effectivement, le jeune, il est sur peut-être un sport collectif, mais à côté, il va s'inscrire dans une salle de remise en forme. Il va éventuellement pratiquer dans des espaces sportifs un peu publics, le skatepark, les espaces de street workout en musculation.
Ou en bas de l'immeuble, improvisé.
Mais en cela, c'est ce qui est intéressant, c'est se dire qu'à partir du moment où effectivement le jeune, il a plaisir à pratiquer, à aller dans une salle de remise en forme, à retrouver ses amis dans un sport collectif, c'est intéressant. Mais c'est vrai que ça met en difficulté les parents lorsque le jeune, il arrête très vite un sport dans l'année.
Mais c'est vrai que moi, je suis quand même, quand ils sont jeunes, quelque part, c'est un peu normal de pas non plus trouver son sport tout de suite. Et on a des discussions comme ça entre parents, ça me disent non, il faut qu'il aille au bout, il faut qu'il continue. Moi, je vois mon fils, il a essayé 3 trucs différents. Je crois qu'il a enfin trouvé ce qui lui plaît vraiment. C'est le tennis de table. Non, mais ça lui plaît vraiment. Il en fait 2 fois par semaine. Ça fait 4 heures par semaine. Et c'est super. Et c'est après avoir essayé 3 trucs différents.
Et toi, Virgile, le rugby, c'est quoi? C'est un héritage familial? C'est ton père, ta mère, tes grands-parents?
Alors, au début, c'est mon père qui m'a sensibilisé au rugby. J'en ai fait pendant une seule année, puis après, je me suis inscrit dans un nouveau club parce que j'ai changé de pays. Et la première année, je voulais faire du foot aussi. Et donc, j'ai fait pendant 2 semaines du foot et du rugby. Puis après, en fait, j'ai arrêté le foot parce que je me suis rendu compte que c'était quand même vachement moins bien. Et donc, c'est un héritage familial au début de mon père, mais...
Guillaume Ditch d'Audeline.
Je suis plutôt team football, même si j'aime beaucoup le rugby. Non, mais par contre, ce qui est effectivement intéressant, c'est toujours la question de l'héritage dans un premier temps par le père et ou la mère, on l'a dit. Mais de là, je rebondis, effectivement, l'idée, c'est pas nécessairement et tout de suite trouver sa voie à son sport. C'est finalement comme pour un métier, une formation, mais donner ce goût pour une pratique sportive, et ça passe peut-être par différentes pratiques dans l'année.
Allez, tous les épisodes de Ma vie de parent de Gwenaëlle Boulet sont à retrouver sur l'appli Radio France. Dans un instant, on s'intéresse à tous ces jeunes qui sont de plus en plus nombreux à pratiquer la musculation. On se retrouve juste après avoir écouté Hervé Sémaphore.
Le footing asthmatique à courir la carrière sur un fil on traverse, alors sur un vent de travers, parce qu'on rêve ce que nous sommes. Soigner les rhumatismes à handicap et paix, les sorties pistes, les sortilèges, ce qui nous porte, ce qui nous pèse, parce qu'on reste ce que nous sommes. Réveillés par les tics, on fait des gosses, on fait des clics, on s'émeut face à la mort, on se remet mort, on s'ignore, parce qu'on reste ce que nous sommes. Prends-moi la main, serre-la fort, c'est ma faute, le sémaphore, je me perds dans la psychose hexagonale. Prends-moi la main, serre-la fort, c'est ma faute, le sémaphore, j'ai perdu là, j'suis plus bien. Ça bascule, on avance sans recul, la matrice qui materne, alors c'est moi le plus fort, c'est moi le plus fort, je reste ce que nous sommes. On se détend, on se déclique, on refait des gosses, on refait des clics, on s'émeut plus face aux morts, on s'ignore, là si s'ignore, parce qu'on reste. C'est ma faute, je me perds dans la psychose hexagonale. Prends-moi la main, serre-la fort, c'est ma faute, c'est ma faute. J'ai perdu là, j'ai plus bien où j'ai mal. Pour qu'on reste ce que nous sommes.
Hervé, interprété, c'est ma faute.
Moi, je pense que cet enfant, faut qu'il s'endurcisse, tout simplement. Et pour ça, il n'y a qu'une seule activité, c'est le rugby.
Grand bien vous fasse.
Je te parle, originalité, Asie, imaginaire, tu me réponds, dents explosées, visage sanguinolent et week-end aux urgences.
Sur France Inter.
Bon, Elliot, dis à papa que tu veux pas te faire égorger par un All Black.
Je ne veux pas me faire égorger par un All Black.
Allez, quels sont les réels bienfaits du sport chez les jeunes ce matin? C'est notre thème donc. Et ils sont de plus en plus nombreux à pratiquer la musculation.
Dans mon ancienne école, ils étaient en forme, genre ils étaient tous minces. Mes anciens potes, ils avaient des abdos même à 10 ans, quelque chose comme ça. Moi, j'étais le seul gros, je dirais, de la classe. Et puis, j'avais des regards parfois, je me sentais mal à l'aise autour d'eux. Je n'osais pas enlever mon t-shirt pendant qu'on se changeait. Pour le sport, pour la natation, je n'osais pas montrer mon corps. Mais après, avec la muscule, j'ai juste changé mon corps. Moi, je me sens beaucoup mieux maintenant. Avec mon corps que j'avais avant, je n'étais pas quelqu'un avec beaucoup de confiance.
Le témoignage de Yannick sur la RTS en 2021. Alors Guillaume Ditch, les jeunes sont de plus en plus nombreux à pratiquer la musculation, notamment en suivant des vidéos sur Internet, sur les réseaux sociaux. Ils s'inscrivent également en salle de muscu ou se retrouvent dans des installations publiques avec, oui, l'idéal d'un corps à la plastique irréprochable. Et pour vous, il est important, je vous cite dans votre livre « Les jeunes et le sport », il est important d'endiguer une dérive narcissique et égocentrique en proposant des formes de pratique collective centrée sur l'idée de faire ensemble plutôt que d'être seul ensemble.
Oui, parce que certes, cette idée de pratiquer davantage la musculation, ce qui est important, c'est par rapport aux bienfaits sur la santé physique. Pour autant, ça témoigne d'une chose, on a parlé de cette période de construction identitaire, c'est qu'à travers la pratique de la musculation ou le cross-fitness ou d'autres pratiques, il y a aussi une pratique plus égocentrée avec une vision un peu narcissique. Alors, c'est lié aussi à la jeunesse, c'est une période aussi de construction. Pour autant, je pense que c'est important peut-être se dire qu'il y a aussi un enjeu d'éducation pour éviter ce type de dérive, parce qu'on est aussi dans une société de l'image, alors exacerbée par les réseaux sociaux. Et de là, il y a le filtre aussi dans les réseaux sociaux. Donc là aussi, nécessairement, il faut aussi se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on fait de la musculation pour les raisons de santé, mais aussi de la confiance en soi, comme je l'entendais là sur le témoignage, et en cela, c'est intéressant. Ou alors, est-ce qu'on ne peut pas aussi réfléchir effectivement à une pratique de plus en plus solitaire, alors dans une salle de remise en forme? Et de là, nécessairement, la dimension collective, la socialisation, me semble très importante à remettre ici.
Et beaucoup d'influenceurs proposent des vidéos comme celle très suivie de Thibaut Inchep. Les cours de PS devraient peut-être apprendre à développer un regard critique sur ce type de vidéos.
Oui, alors c'est le cas déjà au lycée, principalement effectivement autour des pratiques d'entretien. Alors on va rester sur la musculation, parce qu'effectivement on est face à une génération où il s'agit d'éduquer à un regard critique. On parle beaucoup des fake news sur plusieurs sujets, mais à travers la pratique sportive et ses influenceurs, il y a aussi effectivement une réflexion à opérer, peut-être des outils à donner à ces jeunes.
Professeur Martine Duclos.
Oui, et puis attention aux dérives, parce que moi je vais beaucoup en consultation des jeunes qui viennent parce qu'ils ont pris des stéroïdes anabolisants. C'est très facile de s'en...
C'est quoi les risques des stéroïdes anabolisants?
D'abord de bloquer la fonction de la production de testostérone, et puis après c'est des risques cardiaques et cardiovasculaires.
Attention,
et des risques d'addiction, très dangereux.
Virgile, en deux mots, pourquoi tu fais de la muscu? Parce que tu le fais en complément de
oui,
rugby.
Alors c'est pour le rugby, à la fois pour pouvoir être plus fort, on va dire. Mmh. Et il y a cette chose forcément physique, parce que l'été approche.
Évidemment. Le fameux body summer. Et au moins, il est honnête au moins. Et nous accueillons pour terminer cette émission, Chennai. Bienvenue Chennai, tu as 7 ans.
Oui.
Bonjour Chennai, comment vas-tu?
Bien.
T'es en congé aujourd'hui, donc ça va?
Oui.
Alors, tu fais du sport?
Oui.
Quel sport tu fais et pourquoi?
Je fais du judo, des claquettes et de la natation.
Ah ouais?
La danse, et je fais du sport parce que ça me fait du bien.
Alors je résume, claquettes, rappelle-moi, judo, ouais, et natation.
Danse.
Ah ouais. Et pourquoi ça te fait du bien, tous ces sports?
Parce que le judo, ça me sert à me défendre.
Mmh.
La natation, ça me fait du bien quand je nage.
Ouais, tu te sens bien dans l'eau. Mais en fait, tu fais toutes ces activités, mais tu ressens du plaisir, ça te fait plaisir, ça te fait du bien. Chennai, tu es toujours avec
oui.
nous. Ça te fait du bien, ça te fait plaisir de pratiquer tous ces sports.
Oui.
D'accord. Et quel est celui que tu préfères?
Je préfère le judo.
Le judo, oui. Bon, ben c'est très bien. Des questions autour de la table, Guillaume, Ditch.
Ce qui est intéressant, c'est la remarque de la petite fille sur « c'est pour me défendre ». Ça montre aussi une chose, c'est qu'on est aussi encore sur des stéréotypes très forts est marquée autour du sport. Mais pour autant, on peut aussi se dire que le fait de s'ouvrir à ce type de pratique sportive, à un sport de combat, peut permettre aussi de contrecarrer et montrer qu'effectivement, c'est accessible à tout un chacun, et aux filles comme aux garçons.
Chez Nike, un petit ensemble. Garçon, d'ailleurs.
Pardon, un garçon.
Martine Duclos, sur ce petit témoignage.
Non, je trouve ça super. Je veux dire, enfin, en plus, non, ouais. ce qui me plaît, c'est qu'il fait plein de choses. Donc, en fait, il cherche un petit peu. Enfin, voilà, c'est un gamin qui manifestement continuera à bouger plus tard.
Lisa Nourizzi-Ghetti.
En fait, c'est ça, c'est la diversité finalement d'explorer plusieurs sports, de trouver ensuite le sien, celui qui nous fait du bien, qui nous fait plaisir. Ouais. Et je crois que c'est encore là l'essentiel, le plaisir.
Le plaisir, c'est le maître mot, hein, Guillaume Ditch.
Oui, c'est le plaisir pour une pratique régulière et surtout durable plus tard.
Merci à toutes et à tous. Merci Virgile de la Morinerie. Merci Guillaume Ditch. Je recommande vraiment votre livre Les jeunes et le sport. Pensez la société de demain chez Deux Boucs Supérieurs. Merci également Lise Anouri-Zighetti de l'INSEP. Et merci professeur Martine Duclos d'être venue ce matin. Une émission à podcaster sur l'appli Radio France. Demain, comment réussir son changement de vie professionnelle? Réussi ou raté? N'hésitez pas à partager votre expérience dès maintenant sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de l'émission. Vous, Gounel Boulay, vous n'avez pas envie de changer de vie, vous êtes très bien.
Changer de vie ?
Vous êtes rédactrice en chef de Poppy et Pomme d'Api.
Ouais, j'adore d'ailleurs.
Et de quoi vous auriez rêvé d'ailleurs ?
De quoi j'aurais rêvé ?
Ouais.
Ah, c'est dur. Non, un autre métier qui m'aurait fait rêver, c'est la magistrature.
Ah oui ? Oula, procureur, ouais. Juge d'instruction.
Ouais, je suis pas sûre que j'aurais le courage de me remettre dans des études là.
Moi, je l'ai déjà dit à cette antenne, c'est boulanger.
Voilà. Ah, c'est bien.
Ouais, boulanger, ça m'aurait bien plu. Bon, bref, on va arrêter la notre conversation privée. À demain.
Il y a des apparts qu'on n'oublie pas. Le premier, vous en avez rêvé. Le deuxième, vous y avez fait un peu trop la fête. Et le dernier, où vous n'êtes plus tout à fait seul. Nous, on est très contents pour vous, mais on ne peut pas tout deviner. Alors pensez à vérifier votre adresse.